quand même beaucoup d'outils pour accompagner les changements. Donc, j'ai commencé à me former en systémie, en hypnose ericksonienne, en approche stratégique. Et je restais très insatisfaite parce que je percevais que je pouvais apaiser, tranquilliser, voire même anesthésier les souffrances des personnes. Elles sortaient de mon bureau, elles étaient plutôt bien, mais assez souvent quand même, quand elles revenaient 15 jours après, tout était revenu. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à découvrir la régulation émotionnelle. Et ce qui m'a le plus impressionnée, c'est que pour moi, la régulation émotionnelle est vraiment une branche de l'approche systémique. C'est un peu pour ça que j'ai voulu détailler cette présentation, parce que lorsque je regarde comment fonctionne et comment on perçoit les problématiques en systémie et comment est-ce qu'on travaille en régulation émotionnelle, ben on est exactement dans les mêmes paradigmes. Alors, je vais vous présenter ça en quatre temps. En premier temps, un peu assez globalement, qu'est-ce que c'est que l'approche systémique, en sachant qu'une introduction à l'approche systémique, c'est 3 demi-journées. Donc, je vais vraiment résumer et en me focalisant sur ce qui va nous intéresser à nous, praticiens en régulation émotionnelle. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter la partie plus Erickson, des états modifiés de conscience, parce que l'hypnose ericksonienne et l'hypnose, c'est aussi une approche qui est issue de l'approche systémique, qui pour moi me semble essentielle pour comprendre comment marche la régulation. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire lorsque nous amenons quelqu'un à pratiquer une régulation en différé. La troisième chose que je vous présenterai, c'est plutôt le côté de l'approche dite stratégique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend pour créer des problèmes. Et là aussi, comment est-ce que cette approche stratégique va nous aider, notamment dans le travail d'investigation, quand il y a des bugs, et aussi dans là aussi, comment ça marche, pourquoi est-ce que ça marche, la régulation, à l'opposé d'une compréhension intellectuelle. Je développerai tout ça. Je terminerai avec un travail plus autour de l'accompagnement des accompagnants. C'est-à-dire qu'en systémie, on travaille beaucoup sur la non-demande. La maman m'appelle et me dit, mon fils de 14 ans va pas au lycée et comment est-ce que je peux vous l'amener? Et donc là, c'est quelque chose qu'on a aussi, qu'on pratique aussi, hein, puisqu'on est souvent avec des personnes qui sont sans demande. Et là, c'est peut-être aussi ouvrir le débat sur qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes sans demande, mais qui font parfois 200 km pour venir jusqu'à notre bureau pour nous dire qu'ils n'ont pas de demande. Comment est-ce qu'on peut travailler avec ça? Voilà, globalement, les différents aspects, ça sera très réducteur. Il y a plein d'autres concepts que j'aurais envie de vous développer. Ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre intervention. Et excusez-moi pour la concision de ce que je vais présenter et ma tentative aussi de simplification. Voilà, pour les questions, ce que je vous propose, prenez des notes. Et puis on reviendra après, parce qu'il est probable, comme tout interagit et les concepts même interagissent, une question que vous allez vous poser au début, je vais y répondre au milieu de l'intervention. Alors, l'approche systémique au départ, c'est quoi? C'est une approche qui naît d'un mouvement qu'on appelle le mouvement antipsychiatrique. Et ce mouvement antipsychiatrique, qu'est-ce qu'il dit en gros? La causalité, le pourquoi, les symptômes, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment un système va se mettre à dysfonctionner. Alors, c'est quoi un système? C'est un ensemble de parties qui sont en interaction les uns les autres dans un but commun. Une personne, c'est un système. Le foie va communiquer avec les intestins, avec le cœur. La tête va communiquer avec les jambes. Donc, une personne en soi, c'est un système. Mais une personne qui communique avec quelqu'un d'autre, c'est aussi un système. Une personne qui vit dans un environnement, c'est aussi un système. Et finalement, l'idée de base de l'approche systémique, c'est de dire, la pathologie, elle vient moins c'est pas une personne qui porte une pathologie, c'est un dysfonctionnement du système qui va déclencher une pathologie. Ça, c'est intéressant parce que déjà, on est dans l'approche de la régulation émotionnelle. On ne va pas s'intéresser à ce que la personne nous liste tous les symptômes qu'elle a. On va lui demander quand est-ce que ça se produit. Donnez-moi une situation précise où se manifestent ces symptômes-là. Donc, on ne s'intéresse pas aux symptômes, on s'intéresse à la situation qui déclenche le symptôme. Et en soi, c'est profondément systémique. Les systémiciens, ils vont donc s'intéresser à ce système et plus particulièrement aux interactions qu'il y a au sein de ce système. Comment est-ce que ça interagit? Comment est-ce que le cerveau envoie un message au pied? Comment est-ce que mon foie envoie un message à mes intestins? Et là aussi, vous voyez bien que quand, par exemple, on propose à une personne ce tableau sur évitement, agressivité, inhibition, abus de pouvoir, qu'est-ce qu'on lui demande? De s'intéresser à comment il interagit, quel type d'interaction est dysfonctionnante. Face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Je vais l'éviter. Je vais interagir en évitant. J'aurais pu interagir en me confrontant. Non, je vais interagir en évitant. Je vais interagir en m'énervant, avec de l'agressivité. Je vais interagir en m'inhibant. Donc, on va s'intéresser à quel type d'interaction j'ai avec l'autre qui est dysfonctionnante. En systémie, on a repéré trois types d'interactions. Les interactions qu'on a avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, donc ça peut être très organique, mais ça peut être aussi, je fais quelque chose que j'estime pas bien, je me sens coupable, je ressens quelque chose de désagréable, et puis après, je passe à autre chose. C'est une interaction, une émotion que je ressens et que je perçois, c'est une interaction que j'ai à l'intérieur de moi. On va aussi s'intéresser, bien souvent, plus souvent d'ailleurs, aux interactions avec les autres. Je dois parler en public, ouf, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. C'est une interaction. Et puis, on va aussi s'intéresser aux situations avec le monde. Moi, je n'arrête pas d'avoir des personnes qui m'appellent parce qu'ils ont, ont appris que ça allait être les grosses chaleurs, ils ont commencé à faire des crises d'angoisse. C'est ce monde et c'est ce rapport au monde qui a déclenché une perturbation émotionnelle à l'intérieur de moi. Je vais très bien, mais quand je suis dans ce rapport au monde et à la nature, quelque chose se déclenche qui fait que ça ne va pas bien. Donc, on va être attentif aux types d'interactions qui se régulent naturellement, mais celles qui nous intéressent à nous, bah, c'est celles qui ne se régulent pas naturellement. Troisième élément important, c'est vraiment la communication, puisque vous comprenez qu'on a un système avec plein de parties. Ces parties, elles interagissent entre elles. Et l'hypothèse, c'est qu'il y a un problème au niveau dans la manière dont ces personnes communiquent, ces parties, pardon, communiquent. Et on va considérer comme folie le moment où la communication devient dysfonctionnante. Alors, comment une communication peut devenir dysfonctionnante? Par une découverte. Que tout le monde sait finalement, pressant, mais qui est pourtant fondamental pour nous, c'est qu'il y a deux grands types de communication. La communication digitale et la communication analogique. La communication qui va passer par le langage, la communication qui va passer par l'intellect et la communication qui va passer par les sensations, par les perceptions sensorielles. Vous voyez bien là aussi que pour un praticien en régulation émotionnelle, c'est même à la base de notre pratique. C'est quoi notre boulot quand on fait faire une régulation émotionnelle à quelqu'un? C'est de l'amener à passer d'une perception intellectuelle de son problème à une perception sensorielle de son problème. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est qu'ici, il reste suffisamment dans cette perception sensorielle du problème, la capacité naturelle va se déclencher et la régulation va se faire naturellement. Et on sait aussi que le boulot du praticien en régulation émotionnelle, c'est d'être à côté de la personne lorsqu'elle est en train de réguler pour l'amener à rester dans une communication sensorielle avec ce qu'il est en train de ressentir. Donc, cette distinction de communication digitale et communication analogique, pour moi, elle est au cœur de ce qui fait que la régulation fonctionne et elle est au cœur de notre pratique. Comment est-ce que nous allons amener la personne à se percevoir les choses d'un point de vue sensoriel et à y rester dans cet état sensoriel pour permettre à la régulation naturelle de s'activer. Alors, cette communication digitale et analogique, elle a été quand même très développée par Erikson et tout le mouvement autour de l'hypnose, hypnose ericksonienne. Maintenant, on parle de nouvelle hypnose. Pourquoi ? Parce que finalement, pour simplifier un peu les choses, lorsque je parle au sensoriel, j'entraîne un état modifié de conscience. Lorsque je parle au digital, je maintiens la personne dans un état de conscient. Donc, on s'est aperçu que finalement, il suffit de parler avec la communication analogique, sensorielle, pour amener la personne dans l'état qu'on appelle modifié de conscience. Moi, j'ai été très impressionnée au début parce que je voyais bien que, à la fin d'une régulation, la personne était dans un état de détente très proche de ce que je cherchais à déclencher chez quelqu'un après 20 minutes d'induction hypnotique. Et vous avez parfois des gens qui sortent de là, ils ouvrent un œil, ça va, oui, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ils ont vraiment vécu, expérimenté cette modification de l'état de conscience. Je ferai là une toute petite parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, ce que je comprends, moi, des états modifiés de conscience, et pour simplifier, il y aurait deux types d'états modifiés de conscience. Ceux dans lesquels on est très associé. Je ressens, ma pensée se centre sur ce que je ressens. C'est ce que nous, on vient chercher en régulation émotionnelle. Pour moi, il y a un deuxième type d'état modifié de conscience, et où là, je vais tenter de dissocier la personne. Elle ne va plus être connectée du tout à son corps. Et c'est ce qu'on va retrouver plus dans les techniques de méditation, par exemple. Où là, la personne est dissociée du corps. Donc, je suis en conscience, là, soit je bascule à l'intérieur et je suis associée, nous, c'est ce qu'on recherche, mais je peux aussi partir à l'opposé, en état moi, je dis de méditation. Alors, effectivement, je n'ai plus rien à ressentir, mais nous, là où ça ne nous intéresse pas, c'est quand la personne va se reconnecter à la sensation et au corps. Comme rien n'aura été nettoyé de ce côté-là, ça va revenir. Donc, pour moi, descendre en bas, c'est de la régulation émotionnelle. Monter en haut, c'est très intéressant pour les anesthésies, pour les maladies chroniques, pour les douleurs. Savoir se dissocier, c'est génial. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, nous. C'est exactement le contraire qu'on cherche. Je ferme la parenthèse, ça pourra faire l'objet d'un webinaire avec un spécialiste en hypnose, si on en a parmi nous. En quoi c'est très important cette affaire-là ? La communication analogique, elle est d'une puissance incroyable. On ne peut pas lutter contre. Si je vous demande de ne pas penser à la panthère rose, je vous ai obligé à penser à la panthère rose. Vous avez vu la panthère rose, ou entendu, et puis après vous avez entendu ne pas penser. Ça veut dire quoi ? C'est que même si vous ne vouliez pas y penser, je vous ai obligé à y penser. Et ça va faire écho à vos formations, à ce moment, surtout ceux qui sont formés à Tipeee Direct, de fermer les yeux. Quel pouvoir on a à ce moment-là de fermer les yeux ? On va induire encore plus chez la personne le sensoriel. C'est très important parce que ça veut dire que d'une phrase, je peux amener la personne à aller dans le sensoriel, mais ça veut dire aussi que d'une phrase, je peux faire exactement le contraire et je peux la sortir complètement du sensoriel. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'ai été amenée à écouter des collègues qui avaient fait des régulations. C'est pas du tout la même chose de dire « Pouvez-vous me donner une situation représentative ?» que de dire « Donnez-moi une situation représentative. » Parfois, les collègues disent « Oh, tu chipotes. » Mais là, on n'est pas dans du chipotage. On est dans même le mécanisme même de comment ça marche, le travail de praticien en régulation émotionnelle. Dans la première question, pouvez-vous me donner une réponse émotionnelle ? La personne, elle va répondre immédiatement « Oui, non, je reste dans du digital. » Si je lui dis « Donnez-moi », elle va me répondre immédiatement en allant chercher. Alors, parfois, on a de la chance. On dit « Pouvez-vous me donner une situation ?» La personne, elle va dire « Oui, j'ai celle-là. » Mais on se tire une balle dans le pied à ce moment-là. Parce qu'on lui donne la possibilité de nous dire « Non, j'en ai pas. » Et de toute manière, on est en train de perdre un temps fou parce qu'elle va nous dire oui. Et là, on va se dire, attends, mon objectif, c'était de la faire basculer en communication sensorielle. Ah ben, il faut que je leur dise la deuxième question qui est, donnez-la-moi, qui est un verbe d'action. Et ça montre bien le pouvoir de la suggestion et le pouvoir que nous avons de suggérer les choses. Quand on commence à discuter un peu avec nos patients avant, on perd du temps et on ne les aide pas et on les amène encore plus dans le mental. Alors que si on est attentif à la manière dont on dit les choses, c'est là qu'on va arriver à non plus du 3 sur 10 ou du 5 sur 10, mais du 7, 8 sur 10. Donc, c'est intéressant, et là encore, là, j'insiste, quoi, enregistrer ces séances. Pour moi, avant d'aller chercher quoi que ce soit comme explication de pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que je peux d'abord écouter mes séances et voir si j'ai bien gardé une communication sensorielle et si je n'ai pas utilisé des mots qui me semblent pareils, mais qui n'ont rien à voir, puisque finalement, je n'amène pas la personne au bon endroit. C'est déjà une première chose. Le deuxième élément par rapport aux états modifiés de conscience, c'est que si je communique d'un point de vue digital un message et que je communique d'un point de vue sensoriel un autre message, je rends l'autre fou. C'est la définition que nous avons, nous, systémiciens. Si je dis à quelqu'un « mais je t'aime !» Mon message digital, c'est de l'amour. Mon message sensoriel, c'est autre chose. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que quand j'écoute des enregistrements, mes propres enregistrements, et que je m'entends dire à la personne « laissez évoluer », je ne suis pas du tout dans un accompagnement assertif. Je doute. Mon ton de voix doute. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il fait là. Il est concentré, il n'est pas concentré. Si ça se trouve, il est très concentré. Et il attend qu'une chose, c'est que je lui dise laisser évoluer. Sauf que qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu mon doute. Si ça se trouve, mon doute, il est en train de le ressortir du sensoriel en disant pourquoi elle doute, qu'est-ce qui se passe? Et hop, de le faire reventir dans le mental. Donc, être conscient de notre communication non verbale, nos intonations de voix, notre gestuelle, et que comment parfois, eh ben encore une fois, on se met une balle dans le pied parce qu'on est en train de dire quelque chose à la personne, mais en même temps, on est en train de lui communiquer autre chose. Donc, ça peut être dans du doute, ça peut être aussi dans du silence. Ce matin, j'ai accompagné une personne en régulation, laisser évoluer, laisser évoluer, laisser évoluer. Et puis, à un moment, je me suis dit, dis donc, c'est pénible, laisser évoluer, ça doit un peu l'agacer. J'ai quand même continué. Et quand elle est sortie de là, à un moment, elle m'a dit, c'est bien de laisser évoluer là. C'est bien. C'est bien parce que ça me permet d'être en sécurité pour continuer. Donc, si je n'avais pas dit se laisser évoluer, je laissais du silence. J'avais proposé à cette personne-là un accompagnement de sécurité qui était se laisser évoluer. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans le protocole et qu'il est écrit comme ça dans le protocole et qu'on nous demande de le répéter exactement comme ça. C'est parce que là, il y avait une interaction où je l'accompagnais avec ce laisser évoluer, que si j'arrêtais ça, je changeais mon mode de communication et que le silence que je mettais en place, pour elle, c'était une manière de communiquer. Et ça rejoint les propos de Vaclavic qui dit « on ne peut pas ne pas communiquer. Le silence, c'est communication. » Donc, pour moi, là, il y a un premier bloc quand on travaille en autosupervision, je dirais, je ne sais pas si ça existe, c'est j'écoute mon enregistrement et j'écoute si mes messages non-verbaux, ma communication analogique est congruente et respectueuse du message que je suis en train d'exprimer verbalement. Le deuxième apport que je pense que la systémie peut nous offrir à nous, praticiens en régulation, c'est l'approche stratégique. Qu'est-ce que dit l'approche stratégique? Elle dit le problème, c'est souvent la solution qu'on a trouvée. Il y a 2 ans de ça, j'ai discuté avec un ami psychiatre qui est chef de service aux urgences psychiatriques de Rambouillet qui m'a permis de venir travailler en régulation émotionnelle aux urgences. Et quand je lui ai présenté la régulation, il m'a dit, tu sais, là où tu as raison, c'est que ce qu'on sait, nous, psychiatres, c'est qu'une crise d'angoisse, si on ne fait rien, elle passe. Si on ne fait absolument rien, elle passe. Et c'est exactement ce qu'on sait, nous aussi. Si on laisse cette capacité naturelle de régulation se dérouler naturellement sans agir, la régulation va au bout. Quel est le problème? Le problème, C'est les solutions qu'on a mises en place, ou qu'on nous a appris à mettre en place, ou qu'on sait mettre en place. Ça, on va l'observer à deux endroits. Premier endroit, c'est comment est-ce que, qu'est-ce que je mets en place, moi, quand m'arrive un état de perturbation émotionnelle. Quelle solution j'ai trouvé? Je suis énervée, je crie. Je pleure. Je me mets à parler. Tout ça, c'est les solutions que j'ai trouvées. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand les gens viennent me voir, non pas en tant que praticienne, mais en tant que psychologue. Parce que là, ils attendent que je les aide intellectuellement. Donc, ils ne sont pas du tout prêts à faire autre chose. Et du coup, je leur demande d'observer. Quand ils sont dans cet état de situation, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les solutions qu'ils mettent en place habituellement? Et on liste les solutions. Ah, pleurer, je pleure beaucoup. Et quand je ne peux pas pleurer, ah ben je vais courir. Je vais faire une heure de course et ça va. Je vais faire du shopping, je vais faire du... Pour leur permettre juste de repérer comment leur cerveau a trouvé une solution, alors qu'elle ne marche pas, elle apaise et puis ça revient. Mais c'était une solution et ce qui va nous intéresser, c'est juste ce qui se passe avant que la solution ne soit mise en place. Et souvent, je leur demande, OK, dans les jours-là qui viennent, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas utiliser cette solution et même de n'utiliser aucune solution. Qu'est-ce qui se passe si vous n'utilisez aucune solution? Et là, je vais vous donner un exemple. J'ai accompagné un ami à moi qui a découvert, un ami à lui qui venait d'être assassiné. Il a eu un choc très, très fort. Et puis, je l'entendais parler. Il disait aux copains, je n'arrive plus à dormir. Ça fait 3 jours, je n'arrive plus à dormir. Donc, les copains lui disaient, pense à autre chose, va faire du sport. Il leur donnait toutes les solutions qu'on avait l'habitude de trouver. Après, moi, je suis allée le voir et je lui ai juste dit, mais qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien, que tu observes ces sensations et tu observes ce qui se passe quand tu vois ces images-là? Il me dit, mais j'en sais rien. Je reste jamais plus de 3 secondes. Tout de suite, je vais essayer de trouver une solution. Et là, je lui ai dit, la prochaine fois, observe ce qui se passe dans ton corps. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les yeux. Et on a fait une régulation en direct. Parce qu'en plus, c'est tellement évident pour le cerveau que si on lui propose ça, il va y aller. Donc, c'est intéressant de permettre à la personne de prendre conscience qu'il y a un truc qu'il n'a jamais fait, c'est ne rien faire. C'est de ne pas chercher une solution. Ça, il ne connaît pas. Et ça, il a peur. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on les accompagne, qu'on soit vraiment à côté d'eux lorsqu'ils expérimentent cette solution qui est de ne rien faire du tout. Donc, voilà, cette approche stratégique, elle va nous permettre d'aller chercher quelles sont les solutions qui ont été mises en place qui permet à la personne d'éviter de se confronter aux sensations. L'autre intérêt de l'approche stratégique, il est vraiment dans le travail que nous avons à faire d'investigation quand il y a des bugs. Ce qui va nous intéresser, on sait que cette capacité, elle est naturelle et qu'elle fonctionne toute seule. Et que si on ne fait rien, ça fonctionne. Donc, on sait que si la personne est bloquée pendant que la régulation se déroule, c'est qu'elle est en train de faire quelque chose. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là qu'on va aussi utiliser la communication analogique. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Comment vous vous y preniez? Et qu'on va lui proposer qu'on va de rester quoi? Centré sur les sensations. Ah ben, je me concentrais trop. Ok. On va recommencer, je vais vous demander de rester attentif aux sensations, simplement attentif aux sensations, ne faire que de rester attentif aux sensations. Le cerveau comprend très bien pourquoi. Il vient d'expérimenter l'erreur. Il vient d'essayer quelque chose et ça n'a pas marché. Si je l'aide à comprendre ce qui n'a pas marché, il va immédiatement arrêter ce qui n'a pas marché et va faire autre chose. Mais je ne dois faire que ça. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il n'a pas besoin que je lui explique le pourquoi, du comment, qu'en fait, le mental, etc. Pourquoi? Parce que je le remonte dans le mental. Alors que si je lui permets de percevoir juste au moment où il a fait, il a vécu cette difficulté, où il a utilisé cette solution, que ça, cette solution, je lui ai demandé d'arrêter de la faire, ça va être ultra rapide. Il va faire ce que je lui demande. Juste arrêter cette solution. Donc, observer quelle solution la personne a trouvé ou comme dirait Luc, quel moyen la personne a trouvé pour tenter de répondre au problème et lui permettre de prendre conscience que c'est cette solution qui bloque la capacité naturelle à réguler. Je vous donnerai l'exemple de la cicatrisation. Je me coupe, je fais une petite coupure. Si je fais rien, ça cicatrise tout seul. Si je commence à mettre de l'oxygéné, il est fort probable que ça va durer beaucoup plus longtemps.
Maëlys, pour info, bon. T'es à 25 minutes. Hein.
Ok, 10 minutes et après on pose des questions. Alors, le troisième grand bloc que je voudrais développer est un bloc que j'ai découvert grâce à un grand monsieur qui s'appelle Moniel Caïm, qui lui s'est intéressé à ce qu'il appelle les résonances affectives. L'idée, c'est quoi? Si moi, j'ai peur de l'eau et je ne suis jamais allée me baigner, et que mon fils vient me voir un matin et qu'il a mal au ventre, qu'il n'est pas bien. En plus, il y a piscine, premier cours de piscine. Et moi, j'ai peur de l'eau. Je lui dis, mon chéri, reste avec moi. Ce n'est pas grave. Tu es malade, on verra bien. Une part de moi ne perçoit pas la perturbation émotionnelle. Je suis moi-même pris dans la perturbation émotionnelle. Je ne peux pas l'accompagner tranquillement à se confronter à cette situation. Pourtant, c'est le rôle de tous les parents. Les parents, qu'est-ce qu'on fait? On passe 80% de notre temps à accompagner nos enfants qui se retrouvent confrontés à des situations de perturbation émotionnelle et on les accompagne tranquilles parce que nous, on n'a pas peur. Et on a déjà peur. Oui, ben moi non, vas-y, continue. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la régulation se fait tout naturellement et puis ça passe. C'est l'exemple du vélo. Oh là là, j'ai peur. Oui, mais moi derrière, j'ai pas peur. Continue. Oh là là, les sensations sont désagréables et puis ça passe. Mais si j'ai peur de faire du vélo, alors je vais pas pouvoir. Je vais lui proposer les solutions que moi j'ai. Marcher, c'est très bien marcher. Le bus, super le bus, c'est pas un problème. Ça fait 30 ans que moi je fonctionne en bus. J'ai jamais pris le vélo, alors ça marche très bien. Et donc, Moniel Caïm va s'intéresser au moment où dans le système, finalement, tout le monde se met d'accord sur une croyance limitante. Par exemple, c'est normal d'avoir peur de l'eau. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que tout le monde réagit de la même manière. Peut-être que la mère a peur de l'eau et qu'elle évite. Peut-être que le père a peur de l'eau, mais lui, c'est un bonhomme, lui. Lui, il y va quand même. Il y va en force. Et du coup, ça serait bien que son fils, il y aille en force aussi. Tout le monde a peur de l'eau. Tout le monde a mis en place des solutions différentes. Mais tout le monde avec cette croyance-là que c'est normal d'avoir peur de l'eau. Du coup, pour l'enfant, si on prend cet exemple-là, percevoir que ça, c'est une perturbation émotionnelle, c'est quasiment impossible pour lui. La seule manière qu'il va avoir de prendre conscience que c'est une perturbation émotionnelle et donc que ça peut se réguler, c'est de découvrir d'autres personnes, d'aller dans une famille, et dans cette famille, personne n'a peur de l'eau. Et de pouvoir réaliser que ce n'est pas normal d'avoir peur de l'eau. Ce matin, j'ai une personne qui m'a dit « Mais c'est normal d'avoir peur de la mort ?» J'ai dit « Oui, mais pas d'être angoissée. » Donc, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je vais aller repérer, et ça, c'est pour moi très important. Et quand on accompagne des personnes qui nous demandent de les aider, on va les faire travailler sur leur perturbation émotionnelle à eux. Pourquoi? Parce qu'en désactivant la perturbation émotionnelle, on leur redonne cette capacité de sécurisation qu'ils ont pour accompagner les gens qu'ils aiment à traverser naturellement et à déclencher naturellement cette capacité de régulation émotionnelle. C'est aussi très important pour moi, en tant que praticienne, lorsque je me retrouve bloquée face à une situation. Je me retrouve en situation d'échec en termes de régulation. Je vais commencer par écouter ma communication. Je vais aller voir si je ne suis pas en train aussi de l'aider à éviter, parce que peut-être que la personne, ce qu'elle a envie, c'est juste de parler. Et ça, nous, les psys, on connaît ça. Si je suis venue à la régulation, c'est que j'en avais marre d'écouter les gens. Marre de les aider à renforcer leur intellect pour ne pas ressentir le sensoriel. Marre de faire exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Et j'avais même, un peu provocateur, mais un peu de mal à me regarder dans la glace en me disant « Maëlys, qu'est-ce que tu fais ? C'est le contraire que tu devrais faire. » Et là, il vient très dépendant de toi, hein, parce qu'il a besoin de venir parler tous les 15 jours pour décharger. C'est génial, ce truc-là, mais ça ne règle aucun problème. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt de se dire, quand les situations chez moi bloquent, quelle est la croyance limitante qu'il est en train de venir activer chez moi? Cette sorte de clé de voûte où tout le monde autour de la personne va se mettre d'accord. Oui, mais enfin quand même, vous êtes bien d'accord que se retrouver seul et être seul, c'est compliqué. Je me suis fait avoir une fois là-dessus. Et j'ai regardé le temps, oui, non, là on peut rien faire, c'est normal d'être dans votre état. Non, c'est pas normal, c'est très désagréable, mais normalement, on peut se débrouiller pour ne pas se sentir seul assez rapidement. Et là, c'est vraiment en allant sur qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti. Ah, il est venu me chercher sur cette croyance-là. Et d'aller faire une régulation pour soi sur cette croyance-là. Pourquoi? Parce que si moi je régule et que l'autre me dit « Ah ben, c'est normal d'avoir peur de mourir. » Si je n'ai pas régulé cette peur-là, je vais lui dire « Bah oui, c'est normal. » Mais si j'ai régulé cette peur-là, cette perturbation, pardon, je vais lui dire « Avoir peur, oui. Être angoissé, non. » Pourquoi? Parce que mon cerveau, il va être en capacité de penser. Rappelez-vous que quand on est en perturbation émotionnelle, on ne peut plus penser. Donc, on n'est plus en capacité de pouvoir accompagner. Donc, si je bug, c'est évident que la personne est en train de venir activer chez moi une perturbation émotionnelle. Et je vous avoue que dans ces cas-là, on a presque envie de remercier la personne et de lui payer la séance parce que ça va nous permettre de pouvoir travailler beaucoup plus confortablement après. Donc, voilà, travailler ces résonances, comment est-ce que moi qui suis un excellent praticien, qui réussis d'habitude 90%, qui ai vérifié que ma communication était bonne, que toutes mes interactions fonctionnaient, si je bug, c'est qu'il y a résonance affective d'une régulation émotionnelle. Ça peut être la même, mais ça peut être une autre aussi. L'enfant a peur de l'eau, mais la mère a peur de se sentir impuissante à accompagner son enfant. Ce n'est pas la même peur. Elle n'a pas peur de l'eau. Mais quand elle sent son enfant en souffrance, ça lui fait tellement mal de voir son enfant souffrir qu'elle ne peut pas l'accompagner. Donc, ça peut résonner dans un système soit sur une même régulation, soit sur une situation qui déclenche chez chacun des perturbations émotionnelles différentes, par des émotions différentes. Je voudrais terminer sur cette étrange proposition qu'on nous fait de dire aux patients qui ne trouvent pas de situation dans les jours qui viennent, je vous demande de repérer une situation. Cette proposition, en thérapie systémique, on appelle ça une injonction paradoxale. On demande quelque chose à la personne de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on lui demande? De ne rien faire. On lui demande d'observer. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On lui fait une proposition de faire autre chose que ce qu'il faisait habituellement. D'habitude, il pleure, il crie, il évite, il s'énerve. Ah, là, je vais vous demander d'observer. Et du coup, on respecte le fait que la personne n'est pas en capacité de pouvoir le faire, mais en même temps, on continue à l'accompagner. Ça veut dire quoi aussi? Bien souvent, les gens sont pris dans l'impuissance. J'y arrive pas. Tout le monde me dit et puis j'y arrive pas. Et je pense que dans ces moments-là, une des hypothèses, c'est que les patients nous invitent à vivre cette impuissance. Et que si on peut être confortable dans le fait d'être impuissant, pour eux, c'est une expérience géniale. Ils nous voient confortables dans cette impuissance et en leur proposant quelque chose qui respecte cette impuissance. Ok. Ce que je vais vous demander de faire, c'est juste d'observer. Et cette expérience de nous voir tranquilles, à pouvoir accepter l'impuissance, à pouvoir l'aider et de pouvoir rester auprès de lui, cheminer auprès de lui à ce moment-là et l'accompagner dans une étape qui sera une étape supplémentaire dont il a besoin et quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Alors, ce n'est pas évident, mais je pense que si on garde en tête qu'une régulation émotionnelle, c'est 15 minutes, lorsque cette séance, elle s'arrête au bout de 2 minutes, c'est aussi une étape de la régulation émotionnelle. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on leur explique 3 fois les choses, d'autres personnes qui vont avoir besoin qu'on leur explique 1 fois les choses. Pour moi, c'est vraiment fondamental que notre protocole respecte le rythme de chacun. Et cette première étape-là, où on se dit « Ah, ben, on est en train de sortir », on n'est pas du tout en train de sortir. On est en train de respecter le rythme de l'autre. On est aussi en train de respecter toutes ces solutions, tous ces moyens qu'il a trouvés pour vivre avec cette perturbation depuis tant d'années et de respecter ce mental qui lui avait pris en charge le problème et lui faire comprendre que notre objectif va être aussi de respecter cette partie-là plus consciente. Donc, j'entends souvent que c'est compliqué ce moment-là, mais on est tous inégaux dans nos rythmes d'apprentissage, dans nos manières d'apprendre. Montessori, Freinet, ça a 40 ans. Ce qu'on sait maintenant, c'est que personne n'apprend au même rythme. Alors, cette possibilité de laisser un rythme à la personne, un temps à la personne, et surtout, on lui donne une tâche où il va expérimenter quelque chose. Et il y a une chose qui est fondamentale dans l'approche systémique, c'est que le changement ne passe pas par la connaissance. Le changement passe par l'expérience. On peut m'expliquer les choses, mais si on me fait expérimenter quelque chose, alors le changement, il peut être immédiat. Voilà globalement les différents points que j'avais envie d'aborder. Il y en aurait plein d'autres. J'ai à votre disposition des éléments de biographie. Et ben, je vous propose de les envoyer à Armel qui puisse les transférer derrière. Et puis ben, maintenant, je suis à votre écoute pour les questions, les commentaires, les compléments, parce que je sais que dans le groupe, il y a des personnes formées aussi en systémie, en hypnose, et qui viennent peut-être compléter ou illustrer à partir de ce que j'ai dit, de leur propre expérience.
Je veux bien prendre la parole. Merci Maëlie, c'est vraiment très intéressant de recadrer la régulation émotionnelle dans un contexte plus large de psychothérapie, notamment systémique. Pour l'hypnose, moi je suis vraiment, enfin ça fait 20 ans que je pratique, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que Tipeee, c'est une hypnose à induction rapide et action hyper rapide. Il existe d'ailleurs une branche de l'hypnose qui s'appelle l'hypnose du corps qui utilise des outils à peu près pareils. J'ai trouvé intéressant ton analyse état modifié de conscience, dissocié, pas dissocié. Ça me donne des éclairages et globalement, tout ce que tu as dit me donne beaucoup d'éclairages. C'est vrai que si on considère que beaucoup de nos perturbations émotionnelles ont une origine péri ou anténatale, ben on est avec ça depuis bébé et on n'y fait pas trop attention parce que c'est intégré en nous, dans nos croyances. Et ça, avec le psychosomatique, moi je l'ai encore mieux compris. Donc c'est vraiment intéressant, la façon assez fine que tu as d'analyser les choses, de repérer des situations, de valider des réflexes d'évitement, de fuite, etc., pour justement mettre le doigt sur ces nœuds émotionnels qu'on essaye de réguler. Voilà, donc merci, c'était très intéressant.
Maëlys, j'ai aussi coupé ton micro. Je coupe le micro de tout le monde sauf de celui qui parle. Hein. Donc remettez vos micros à chaque fois.
Oh. Mais je vais couper le mien maintenant.
C'est vraiment
Entendu.
ce que moi j'ai découvert que finalement j'ai compris comment fonctionnait la thérapie stratégique grâce à la régulation. Et un exemple concret, une des tâches qui est utilisée en thérapie stratégique, c'est vous allez prendre une demi-heure, vous allez vous installer dans un endroit confortable, mettre une alarme, fermer les yeux et vous confronter à toutes les situations les plus angoissantes que vous avez. Et vraiment, dans les faits, on voit la personne faire ça pendant une semaine et revenir et dire, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait se confronter à cette sensation et de ne rien faire d'autre que ça, que de se confronter à cette sensation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La régulation s'est activée. Donc, générer des contextes qui permettent à cette régulation naturelle de s'activer. Moi, j'avoue aussi que c'est ce qui me passionne le plus, c'est avant même la thérapie, comment est-ce qu'on peut être dans de l'éducation? Et comment est-ce qu'on peut naturellement favoriser ces contextes-là? Jacques, tu as des poils du torse absolument magnifiques. Tu peux couper le son.
Bon, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et poser des questions? Et Maëlys, tu peux le couper toi-même ton micro à chaque fois que tu as fini.
Ben, je coupe moi-même alors.
Si j'ai bien compris, pardon, je peux prendre la parole? C'est bon.
Vas-y, vas-y.
Si j'ai bien compris, C'est surtout dans l'identification des situations que tu te sers de cette approche un peu systémique, c'est-à-dire repérer le fonctionnement pour identifier des situations, notamment. On t'entend pas. Pour un micro.
Ouais, l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de sortir du paradigme « j'ai un problème » pour entrer dans « j'ai une situation qui déclenche un problème chez moi ». Je coupe le son.
Oui, et en cela que là, c'est une approche qui intègre bien Tipeee dans un contexte plus large de psychothérapie. C'est un outil au milieu d'autres et c'est un outil précieux, bien sûr, et intéressant.
Donc moi, ce que je dirais, c'est que la psychothérapie, c'est la régulation qui s'active. Maintenant, l'art du psychothérapeute est d'amener la personne à pouvoir réguler. Donc soit repérer, soit les situations, soit repérer comment j'empêche cette régulation de se mettre en place. Et c'est là où ça demande parfois une séance ou deux pour que la personne puisse réussir à activer. Pour moi, psychothérapie égale activation de la régulation émotionnelle.
Très bien. Et beaucoup de thérapeutes, psychologues et autres, souvent font un petit peu des préliminaires avant de faire Tipeee. Ils ne le font pas à la première séance. Je ne sais pas si c'est ton cas.
Ben, disons que quand la personne arrive pour aller voir un psychologue, elle a tellement de présupposés, d'attentes que je vais l'aider à intellectualiser que bon, j'essaye. Une fois sur deux, ça passe en direct. Et du coup, quand on a commencé par la régulation, derrière, il y a une telle expérience avec un tel vécu puissant que là, ça va très vite. Et la deuxième fois, ça ne passe pas. Du coup, là, je reprends les choses un peu autrement et je peine des tâches pour obliger la personne à recadrer sa perception du problème. Et souvent, dès la deuxième séance, notamment le tableau avec évitement, agression, inhibition, abus de pouvoir, ça, je le donne dès la première séance. Et du coup, pendant 15 jours, les personnes viennent. Ce que je fais, c'est que je leur dis, ce que je vais vous demander maintenant, c'est quand ça arrive, juste d'observer ce qui se passe dans votre corps. Et donc, dans le tableau, je vais vous demander de noter 3 sensations que vous avez repérées dans ce qui se passe dans votre corps. Du coup, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 jours? Quand elles reviennent, elles disent, c'est pas réglé, mais j'ai eu beaucoup moins d'émotions débordantes. Ben oui, elle a au moins expérimenté le fait d'arrêter d'être dans l'intellectuel, de basculer dans le sensoriel, et du coup, l'émotion s'est arrêtée nette. Et donc, ayant fait cette expérience-là, elle a passé la première étape, et là, du coup, c'est beaucoup plus facile pour elle d'aller dans la deuxième étape, qui est de laisser évoluer.
Oui, puis je crois que c'est vraiment intéressant et presque indispensable d'intégrer Tipeee dans la vie quotidienne. Pas juste un outil, je te traite la phobie, puis après, démerde-toi. Donc, je ne sais plus quand on en parlait, peut-être un autre webinaire. On voit les gens une fois, on fait cette régulation, mais c'est bien de les revoir au moins une fois pour voir à quoi ça peut servir d'autre. C'est bien de ne plus avoir de phobie des araignées ou de je ne sais pas quoi. Et si on peut comprendre ce qu'on a fait, le reproduire et changer sa vie, c'est encore mieux.
Alors, ça, tout le monde n'est pas forcément. L'approche stratégique, elle dit expérimente, teste, ça marche, comment ça a marché? Commence par le sensoriel. Par contre, elle a ce deuxième temps de qu'est-ce qui fait que ça a marché? Parce que la personne, elle a besoin de comprendre ce qui a marché. Sinon, ça veut dire quoi? C'est que je suis magicienne? Je ne suis pas magicienne, moi. Alors, si je veux qu'ils reviennent me voir tous les 15 jours, ce n'est pas du tout mon objectif. C'est de percevoir comment c'est une capacité naturelle. C'est là aussi où ça modifie complètement la pratique de ma pratique à moi de psychologue et de psychothérapeute. Mon objectif est d'amener la personne à percevoir qu'elle a ces ressources-là.
Maëlys, tu m'entends?
Oui.
Oui, Sandrine. Bonjour et merci, c'était absolument passionnant. Et coucou à Jacques au passage. Je voulais savoir, dans les cas de résonance affective, comment peut-il prendre quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en te disant voilà.
Je t'entends pas très bien.
Quand tu dis ma fille a peur de l'eau. Comment tu le fais pour aborder le problème que peut-être ça résonne dans toute la famille?
Alors, pour l'instant, je suis en essai-erreur, je n'ai pas du tout de protocole. Ce que j'ai l'habitude de faire, parce que souvent les gens viennent avec la fille, je prends la fille tout de suite 5 minutes. Et si là, je perçois qu'il n'y a pas de demande, je prends directement la mère et je la fais vraiment travailler sur quand elle a peur de l'eau, qu'est-ce que vous vivez, vous ? Donnez-moi une situation représentative où votre fille a peur de l'eau et où vous, ben, vous perdez vos moyens, vous vous énervez, vous vous inhibez, et je fais réguler là-dessus.
Merci.
Il y a une fois où ça marche, c'est-à-dire que 15 jours après, la fille n'a plus peur de l'eau. Pourquoi ? Parce que la mère, ayant récupéré cette sécurité, elle a retrouvé une position logique et congruente pour aider sa fille à se confronter. Soit ça n'a pas fonctionné. Quoi, la mère va beaucoup mieux. Par contre, la fille a toujours le problème, mais ça devient le problème de la fille beaucoup plus. Ça me fait penser à une situation, une adolescente qui n'allait pas en cours. Ce n'était pas du tout un problème pour elle puisqu'elle n'allait pas en cours. Par contre, c'était un problème pour les parents qui allaient se faire toquer par l'académie. On a travaillé avec les parents en régulation émotionnelle. La fille est venue me voir 15 jours après en disant « Mes parents sont complètement malades, ils n'en ont plus rien à foutre de moi. » Ça ne les dérange pas du tout que… Et là, on a pu trouver une situation représentative. Ça répond à ta question, Sandrine ?
Oui, merci. Oui.
Et après, j'explique. Après, à chaque fois, j'explique. Quand il y a eu expérimentation, j'explique.
Pierre Berthier qui parle. Merci beaucoup, Maëlys. J'adore t'entendre reparler de tout ça. Et moi, j'ai le privilège de l'avoir entendu plusieurs fois. Ça commence à rentrer. Je valide ce que tu viens de dire pour les enfants. Ma pratique systématique, et qui s'est encore passée la semaine dernière, c'est je reçois la mère ou le parent. Et encore la semaine dernière, la mère m'appelle pour son fils de 4 ans qui ne peut pas dormir tout seul. J'ai reçu la mère. Et le soir même, le gamin dormait tout seul. Voilà. Et je n'ai jamais vu le gamin, ce qui m'arrange, parce qu'il est à Carcassonne et il a 4 ans. Et moi, je suis à Paris. Ensuite, tout ce que tu as développé, notamment la pensée analogique et digitale, et puis la résonance affective, ça fait écho à un point sur lequel Luc a insisté ce week-end, où j'étais en module 2 psychosomatique avec Marie-Annick d'ailleurs. Et Luc a souligné beaucoup l'importance de, pas le protocole, on oublie les consignes pour ce deuxième module, mais l'intention. Où je veux emmener la personne. Et à partir du moment où on a l'intention, où on sait où on veut aller, et où on sait où on est nous-mêmes et où est l'autre, à ce moment-là, nos mots vont être libres. On ne se prend plus la tête avec les consignes à la lettre près. C'est ça. Et donc, les outils que tu nous as exposés là, pour moi, c'est des façons de vérifier si je suis bien positionné si je sais où je vais pas. C'est pour ça. Et du coup, enfin, l'enregistrement, s'écouter soi-même ou écouter les autres, ça, c'est vraiment un truc génial pour progresser. Super important. Voilà.
Moi, je dirais 3 choses, là, Pierre. La première, que les enfants que nous sommes sont loyaux à nos parents. Qui es-tu, toi, thérapeute, pour réussir à faire un truc que mes parents n'arrivent pas à faire ? Et pour avoir travaillé pendant des années dans la protection de l'enfance et en supervision d'équipe en protection de l'enfance, c'était vraiment une des difficultés où l'enfant ne laissait pas les éducateurs réussir là où les parents avaient échoué. Et donc, moi, mon objectif est vraiment plutôt de remobiliser ou de donner aux parents les moyens de faire le travail, parce que là, je ne coince pas l'enfant dans une loyauté où le fait que je réussisse quelque chose veut dire que les parents n'ont pas réussi. Et ça, je crois que cette loyauté, elle est extrêmement puissante, et plus on peut s'allier à ceux qui sont légitimes dans le fait d'accompagner les personnes, mieux c'est. Et là, moi, c'est un petit peu sur... Quand quelqu'un a une difficulté, un collègue me demande peut-être de prendre un de ses patients, j'aime pas du tout ça. Premièrement, ça suggérerait que le problème, c'était le thérapeute, alors que sûrement, il y a quelque chose qui buguait chez la personne. Et deuxièmement, c'est c'est coincer la personne dans un truc aussi de loyauté. Donc, pouvoir permettre, j'ai commencé à accompagner, je peux t'aider en te permettant de continuer à accompagner, mais pas en étant dans quelque chose qui est pour moi très disqualifiant. Donc je supervise, mais finalement je te disqualifie en te disant ok, mais finalement je vais le faire moi. Ça, c'est la première chose. sur l'enregistrement, sur le digital. Oui, sur l'enregistrement, ça me semble évident. Puis la deuxième partie, je me rappelle plus. T'as dit quoi en deux, Pierre?
C'était la question de l'intention. Oui. Qui va nous permettre de trouver spontanément le bon vocabulaire et le bon rythme. Et que savoir comprendre le digital analogique et la résonance, ça nous permet d'être plus juste dans l'intention, je pense.
Pour moi, digital analogique, c'est la base de la régulation émotionnelle. Si on n'a pas compris qu'une régulation ne peut pas se faire lorsqu'on est dans l'intellect, il faut reprendre les bases. Si ça marche, c'est parce qu'on a permis à la personne d'être dans la perception sensorielle et d'y rester suffisamment de secondes.
Maëlys, je voudrais revenir sur ce que tu as dit à propos de la loyauté des enfants vis-à-vis des parents. Qu'en est-il quand les enfants sont adoptés?
Une situation concrète? Parce que tu vois, nous en systémie, les enfants adoptés, ça, c'est pas un concept pour nous. En systémie, donne-moi une situation concrète. On va travailler sur une situation et pas le fait d'être un enfant adopté n'est pas un diagnostic. Ouais, c'est un diagnostic. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans une situation précise? Qu'est-ce qui se passe? Là, je pourrais te répondre. Mais pour moi, ça n'est pas une problématique, un enfant adopté, quoi. Un enfant adopté va être confronté à des situations et on va voir ce qui se passe, quoi, à ce moment-là. L'enfant adopté, soit il est avec un parent qui a les mêmes résonances, soit il a les mêmes perturbations, soit il est avec un parent qui ne les a pas. Je ne réponds pas.
Oui, alors, je veux bien donner un exemple, mais je ne sais pas si évidemment, ça fait évidemment écho à du vécu. Mais j'ai peur que ça dévie un peu de la thématique. Je te contacterai à ce propos-là, alors.
Avec grand plaisir. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, je vais relayer une question qui est posée sur le... sur le truc, c'est à propos de l'alarme. J'avoue que moi non plus, j'ai pas bien compris quand tu as parlé de placer une alarme. Voilà. Et sinon, je signale qu'il est 14h30. Hein, voilà, s'il y en a qui veulent partir, n'hésitez pas. Et puis après, c'est toi qui vois.
Voilà. C'est une alarme, dis-moi, à quel moment j'ai dit ça?
C'est quand tu donnes une prescription de tâche où tu dis à la personne, asseyez-vous, ne faites rien, une demi-heure, et mettez une alarme pour la demi-heure.
Ah, l'idée, c'est... Oui. En fait, l'idée, c'est pour faciliter aussi la sécurité. Je vais dedans, mais je sais que je vais en sortir. Donc, je prends mon téléphone et je mets une demi-heure pour que ça sonne au bout d'une demi-heure. C'est juste ça, l'alarme, quoi. Et donc, je ferme les yeux et là, je me confronte à toutes ces situations qui peuvent déclencher des sensations d'angoisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette situation, sécurisée, aussi fermée, quoi, par ce temps, je sais que c'est un temps et un espace donné, va m'apporter suffisamment de sécurité pour pouvoir... oser me confronter à ces sensations, à ces images qui déclenchent des sensations désagréables. Pour aller au bout d'ailleurs de cette tâche-là, l'idée c'est vraiment, prenez une demi-heure, mettez votre alarme sur une demi-heure, fermez les yeux, faites venir toutes les idées, toutes les images, toutes les pensées, tout même les fantasmes qui déclenchent chez vous ces sensations désagréables, et vous y confrontez pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, quand le réveil sonne, vous sortez de là. Vous lavez le visage à l'eau froide, vous vous lavez les mains à l'eau froide. L'idée étant aussi de permettre à la personne de redescendre. 80% du temps, au bout de 10 minutes, elle s'est endormie. Hein. Celle-là a vraiment bien fait. Et oui, ça a régulé. Et d'ailleurs, ils disent, bah, je l'ai fait 3 fois, mais la 4e fois, je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, pour ça, qu'est-ce qui marche dans les thérapies stratégiques? Des conditions qui permettent à la régulation de s'activer naturellement. Mais je dirais, qu'est-ce qui marche dans le MDR? Pour moi, c'est la même chose. Retrouver le souvenir, aller regarder mes yeux et ne faites quoi? Faites rien, en gros. Que de ressentir jusqu'à ce que vous sentez qu'il n'y a plus rien. Ben, ça s'appelle de la régulation. Pour moi, tous les outils, on peut décortiquer chacun des outils psychothérapeutiques qui existent, à un moment donné, on va s'apercevoir que ce sont comment réunir les conditions pour permettre à cette régulation naturelle de s'activer. C'est bien un chantier que je veux bien faire avec l'un d'entre vous. On se prend toutes les nouvelles techniques qui existent et toutes celles qui marchent vraiment, hein, pas celles qui anesthésient. Et je suis sûre qu'à chaque fois, on trouve un moment où on a créé un contexte qui fait que la dérégulation s'active naturellement. Ça veut dire quoi ? Que aucun psychothérapeute ne soigne. Les psychothérapeutes, tous, ont des moyens de permettre au cerveau d'être dans un contexte qui permet à la régulation de s'activer naturellement. Catharsis en psychanalyse, ah, ça a été super compliqué, c'était pas bien, j'étais pas bien, vraiment, ça allait pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'a fait le psy ? Ben, rien, puis ça s'est calmé. Et alors, cette séance, hein, c'est bizarre, mais alors, cette séance, je suis sortie de là, c'était complètement différent. Ça fait 5 ans qu'on travaillait dessus. Cette séance, alors là, elle était vraiment très importante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Régulation émotionnelle. Bon, je suis un peu peut-être excessive, mais je suis persuadée que pour moi, la régulation émotionnelle, c'est l'essence des changements en psychothérapie, quelles que soient les psychothérapies. Bien, on va peut-être s'arrêter là. Alors, si vous avez quoi que ce soit, moi, j'ai un site qui s'appelle tafinine.com. Il y a des contacts, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions, m'informez. Des exemples qui vous viennent de ce que j'ai dit, ça m'intéresserait pour pouvoir venir compléter mon exposé. Voilà, à votre disposition, avec grand plaisir. Je consulte par téléphone, en supervision.
Est-ce que tu as déjà fait cette conférence devant des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres ?
Oui, à Rambouillet, à l'hôpital psychiatrique de Rambouillet, où je forme, là où j'ai formé pendant un an et demi, infirmière, aide-soignante et psychiatre du pôle d'urgence psychiatrique à la régulation émotionnelle. Merci. Mais bon, ils sont déjà un peu dans le mouvement antipsychiatrique, quoi.
Ok, mais c'était super, merci beaucoup.
Merci. Avec plaisir. On se dit au revoir. Merci à tous. Au revoir.
Merci à toi.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Merci à Mel également. Hein.
Merci.
Choukran. Merci, Maëlie.
Merci, Chloé.
Je te contacte bientôt.
Ça marche, avec plaisir.
Bon, je coupe l'enregistrement et je vais fermer, donc ça va mettre tout le monde dehors, ok ? Au revoir.
Bon, merci.
Elle.